Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous continuons l'étude de et la mise en œuvre de la vertu de tempérance. Et après l'interruption de dimanche dernier où nous avons sauté les étapes pour arriver directement au jeûne, il faut que nous revenions à ce qu'est la vertu de tempérance. Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'elle est fondée sur deux piliers, la pudeur et l'honnêteté. Nous avons parlé de l'honnêteté dans notre premier sermon, parce qu'il faut toujours voir les choses par en haut, parce qu'il faut donner de l'enthousiasme, et il est évident que la vertu de tempérance nous permet de mettre notre corps avec tous ses désirs au service de grandes choses. Il n'en reste pas moins que, particulièrement en raison de la blessure du péché originel, du caractère sensible de l'objet de la vertu de tempérance, il s'agit des sens, des désirs des sens, on tombe très facilement dans un caractère sensuel, d'où l'importance de la pudeur. Alors, pudeur qu'il ne faut pas prendre au sens moderne, qui consiste à cacher les choses intimes, mais dans le vrai sens, qui est une honte. Une honte du péché ou de la propension au péché. Nous sommes, hélas, enclin au péché, et les péchés de la chair font honte parce que ils nous rendent semblables aux animaux. Il faut bien nous rendre compte que si l'homme a un esprit par lequel il touche aux anges, par lequel il sera compagnon des anges pour louer Dieu, l'honorer, pour le contempler éternellement, l'aimer éternellement. Donc si l'homme a un esprit qui le met à un niveau supérieur, il a un corps par lequel il est compagnon des animaux. Et toute la question est de savoir si l'animal qui est en nous, frère Anne, dont parlait saint François d'Assise. Toute la question est de savoir si frère Anne va spontanément suivre la raison, la foi, la charité, l'amour de Dieu. S'il va partager l'enthousiasme de son maître, c'est-à-dire de l'esprit, ou au contraire, s'il va tendre à rabaisser l'esprit et le maître vers des choses animales. Alors nous sommes bien obligés de constater que la chair nous rabaisse vers des choses animales. C'est une situation qui n'est certainement pas normale, parce que la situation normale, c'est de foncer vers Dieu. N'empêche que c'est cela. Et de cela, nous ne sommes pas fiers. Et dire que nous n'en sommes pas fiers, c'est dire que nous en avons honte. Et celui qui n'a pas honte de cette situation, c'est qu'il est devenu insensible, ou bien qu'il est un grand pécheur qui ne voit plus la gravité du péché et la honte du péché, ou bien qu'il est un homme parfaitement vertueux dont le corps n'est plus un poids et qui par conséquent n'a plus à avoir honte des tendances sensibles. Et c'est pourquoi saint Thomas d'Aquin nous dit que la pudeur n'est pas vraiment une vertu. Elle y ressemble parce que grâce à la pudeur, nous allons nous éloigner de ce qui fait honte et donc nous éloigner de ce qui est animal. Donc ça ressemble à une vertu. Mais ça n'est pas une vertu parce que justement, tant que nous sommes, nous réagissons par la pudeur, cela prouve que le corps en nous conserve une influence qui n'est pas normale, une tendance vers le mal. Et voilà pourquoi en éducation, il est très important de développer la pudeur, la honte du péché, la honte de nos mauvaises tendances. Parce que qui veut faire l'ange fait la bête. Et nous avons honte, notamment devant les personnes que nous estimons, en tout premier notre père, notre mère, et nous avons honte devant les personnes avec lesquelles nous vivons constamment parce qu'elles peuvent nous juger. Eh bien, il faut que le père entretienne, et la mère de même, chez les enfants, le sens de la honte, on peut même dire le sentiment de la honte. Il faut que la honte se sente. Et c'est une bonne chose parce que les vices contre l'intempérance sont des vices, saint Thomas d'Aquin dit, infantiles. Mais c'est un beau terme, infantile. Ça ne traduit pas vraiment la réalité. La réalité, c'est que ce sont des gamineries. Des gamineries. C'est un comportement de gamin. Et saint Thomas d'Aquin va développer 3 points pour nous montrer que l'intempérance est vraiment de la gaminerie. Parce que, premièrement, l'intempérance, comme la gaminerie, porte vers quelque chose qui est contraire à la raison et donc qui est laid. Le gamin, comme l'intempérant, ne cherche pas ce qui est beau, mais cherche ce qui est laid, cherche ce qui salit, ce qui est sale. Ils aiment des choses sales. Boire un verre de vin pour mettre une bonne atmosphère parmi les amis est une chose noble. Mais se préoccuper du vin est une chose sale. Et la même chose dans l'usage du mariage. Il y a une comparaison à faire et une ressemblance entre l'intempérance et la gaminerie, l'infantilité. Quant au résultat, si on laisse l'enfant faire sa volonté, dit saint Thomas, sa volonté propre ne cesse de grandir, autrement dit son caprice. Et l'Esprit Saint nous dit dans l'Écriture sainte, un cheval mal dressé devient rétif, et un enfant laissé à lui-même devient impétueux. Il en est de même pour la convoitise, c'est-à-dire pour l'intempérance. Si on lui donne satisfaction, elle devient plus vigoureuse. Et saint Augustin nous fait remarquer que de s'asservir à la passion, de se soumettre à la passion, crée une habitude. Et lorsqu'on ne résiste pas à l'habitude, alors on devient esclave. Voilà le résultat. De même qu'un enfant est esclave de ses passions facilement, l'intempérant est esclave de ses passions. Et troisièmement, il y a une comparaison, une ressemblance, quant au remède. Et c'est toujours saint Thomas qui parle. Comme tous les éducateurs, mais enfin, nous avons choisi de prendre saint Thomas pour guide. On corrige l'enfant en le contraignant. C'est ainsi qu'il est dit dans les Proverbes, le livre des Proverbes, inspiré par le Saint-Esprit, qui a le Saint-Esprit pour auteur. Ne ménage pas à l'enfant sa correction. Si tu le frappes de la baguette, tu délivreras son âme de l'enfer. Un jésuite disait, les enfants, c'est comme les bateaux, ça se gouverne par le derrière. Et c'est pourquoi les francs-maçons qui ont la haine de l'Église et par conséquent la haine de la vertu vont tout faire pour plonger les chrétiens dans les vices les plus honteux. Il n'y a pas que cela, évidemment, ils vont démolir l'intelligence, démolir la foi, démolir la charité, c'est une évidence. Mais ils savent que en démolissant la tempérance, ils rendent les hommes esclaves de leurs passions et incapables d'autres actes de vertu. Nous parlerons des filles de l'intempérance une autre fois, c'est-à-dire des vices engendrés par l'intempérance. C'est terrible, au sens propre du terme. C'est terrible, ça doit inspirer la terreur. Quand on voit les conséquences de l'intempérance, qui vont jusqu'à la haine de Dieu, par amour du monde, il n'y a que pas frémir. Or, que font les francs-maçons? Ils interdisent qu'on frappe un enfant. Non seulement qu'on le frappe, mais même qu'on le punisse. Alors, c'est vrai que dans certains cas où il faudrait punir l'enfant, et même le frapper pour le ramener à la raison, nous ne le pourrons pas. Et nous serons obligés de nous ramener à des choses, de nous tenir sur des choses plus fondamentales. Et une de ces choses fondamentales, ce sera la honte. Que l'enfant se rende compte de ce qu'il a fait de mal. La preuve que la baguette fait beaucoup de bien, vous avez un exemple dans la vie de Saint Jean Bosco. Il avait joué dans la maison des Bosco était toute petite. Il n'avait évidemment pas le droit de jouer dans la maison. C'est comme ça qu'on casse les choses. Et il avait désobéi. Probablement plus par faiblesse que par malice. Toujours est-il que le pot d'huile d'olive, qui était sur l'étagère, est tombé et s'est cassé. C'est catastrophique quand on voit déjà le prix de l'huile d'olive aujourd'hui. Et il en était de même autrefois. Hein. L'huile, c'est quelque chose de valeur. Alors combien contenait le pot? Moi, je sais pas, 2 litres, 3 litres, 5 litres. Toujours est-il que l'huile est par terre. Quand Saint Jean Bosco voit cela, il sort de la maison, il va couper une baguette de coudrier, et puis, avec son canif, il la prépare, il enlève l'écorce, et puis il l'orne. Lorsque sa maman rentre le soir, il lui tend la baguette, et lui dit, « Maman, j'ai fait une grosse bêtise, il faut que vous me donniez, que vous me fouettiez, que vous me frappiez. Vous me frappiez les épaules. » La maman ne dit pas non, mais elle voit tellement la bonne volonté de son fils qu'elle se rend compte qu'il sera encore plus puni par la peine qu'il lui a faite, la honte, c'est la honte, que par les coups. Et que dans ce cas-là, les coups diminueraient la honte. On paye à pas trop cher. Alors, ne vous fondez pas trop sur Saint Jean Bosco, qui n'a jamais donné un coup à un enfant une fois dans sa vie. Il dit, j'ai donné une fois une gifle, j'ai couru un gros risque, mais je ne le regrette pas, j'ai eu raison. Il avait affaire à des enfants, de bons enfants, il avait une autre méthode éducative, il y avait des enfants qui n'acceptaient pas ces méthodes et qu'il était obligé de mettre dehors, et sa méthode ne peut pas être universelle. Hein. Ce qu'il faut retenir de Saint Jean Bosco, c'est la nécessité de beaucoup aimer les enfants et de le leur montrer. Mais ce serait une erreur de croire que Don Bosco demande que les parents ne corrigent jamais leurs enfants de façon vigoureuse. Saint Benoît est très réaliste aussi. Saint Benoît dit « Traite tes inférieurs lorsqu'ils sont bons, traite-les en égaux, et quand ils sont mauvais, traite-les en inférieurs. » Et Saint Benoît dit « Lorsque l'inférieur se conduit mal, on le frappe. » Vous avez à Subiaco, la grotte où était Saint Benoît, qui est devenu un monastère, il y a des fresques qui ont été peintes, évidemment, pour orner la chapelle et les lieux. Et vous avez une fresque qui montre un moine à genoux, la tête sur les genoux du père abbé qui lui est assis. Vous avez le père abbé qui est assis, le moine est à genoux devant lui avec la tête sur les genoux, et que je te frappe parce que le moine avait fait une grosse bêtise. Tenons compte de cela, voyez. Quand l'âme s'accroche aux choses spirituelles et y demeure fixée, elle voit ses assauts brisés, les assauts de la convoitise charnelle brisés. Mais lorsque c'est le contraire, alors le caprice n'a plus de limite. C'est le moment, pendant le carême, de nous rappeler que nous n'avons pas à être fiers de nous. Bien sûr, toute la vie spirituelle n'est pas que dans la lutte contre l'intempérance. La vertu de tempérance nous permet, c'est pour ça qu'elle est encadrée par deux actes, la pudeur en dessous et l'honnêteté qui la tire vers le haut. La pudeur la pousse et l'honnêteté la tire vers le haut. Donc il y a l'honnêteté, bien sûr. Enfin, il ne faut pas oublier la pudeur. Et nous avons bien besoin du carême pour nous rappeler que nous ne sommes pas ce que nous croyons. Une dernière chose, il y a dans ce vice d'intempérance, comme dans tous les autres, les occasions de péché. Mais l'occasion de péché est particulièrement grave dans l'intempérance. Elle est grave aussi dans l'intellect, lorsqu'on fréquente des gens qui pensent mal, on finit par subir leur influence, devenir libéral, voire hérétique. C'est tout le drame. C'était un des grands conseils de Saint Jean Bosco, cela. Le choix des amis. Les conseils de Saint Jean Bosco ne sont pas très nombreux, ils sont très précis, rien qu'à les suivre, déjà on peut dire qu'on a fait les trois quarts de l'éducation. Et un des conseils, c'est le choix des amis. Tu fais trois catégories des gens que tu fréquentes, les bons, les mauvais, ceux qui sont entre deux. Les bons, tu les cherches, les mauvais, tu les fuis, ceux qui sont entre deux, bonjour, au revoir, et rien de plus. Et si on appliquait ça dans la fraternité Saint-Pie-X, on n'aurait pas le drame que nous connaissons. Et c'est pour ça qu'il faut vous méfier vous-même de vous faire des amis dans la fraternité Saint-Pie-X. Parce qu'ils suivent des mauvais, parce qu'ils sont avec des mauvais, parce qu'ils ont de mauvais camarades, des modernistes. Alors, je reviens à ce que je vous disais. Il y a des occasions de péché. Et celui qui aime le danger, y périra. Et aimer l'occasion de péché, c'est déjà aimer le péché. Et donc il y a une fuite. Oui, ça n'est pas glorieux. Mais c'est pour ça qu'on parle de pudeur. Il y a une fuite du mal, une fuite du monde. Une fuite qui n'est pas que dans la tête. Et c'est pourquoi il faut une très grande prudence par rapport à tout l'audiovisuel, et particulièrement chez les enfants. On peut dire que des parents qui laissent des enfants en contact avec Internet ou la télévision sans surveillance sont en état de péché mortel rien que pour cela. Parce qu'ils laissent dans une occasion de péché. Je dis sans surveillance. Que la femme se rappelle également qu'elle est très sensible à ses émotions et que chez elle, le côté sensible l'emporte facilement. Et il est évident que lorsqu'elle se soumet à son mari, il y a chez elle une difficulté, une assaise, mais qui lui est nécessaire. Non pas parce que nous traitons la femme en être inférieur, mais parce que si nous voulons, si la femme veut conquérir l'honnêteté, elle doit avoir la pudeur par rapport à ses sentiments qui s'emballent si rapidement. L'homme, lui, est plus froid. On le lui reproche quelquefois, mais enfin, au moins, c'est un avantage. Encore qu'il n'est certainement pas insensible au plaisir de la chair, quel qu'il soit. Ben, il arrive, hein, surtout aujourd'hui, où on prêche la folie, et notamment l'émancipation des femmes. C'était le pire, la pire chose pour les femmes, c'est de les émanciper. Allez, je termine. Demandez beaucoup à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ de vous faire comprendre combien, si notre Seigneur a souffert physiquement dans son corps, c'est que nous avons besoin que notre corps sente la honte, c'est le seul moyen pour qu'il monte vers l'honneur, vers la charité et l'amour de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.